Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Une interview avec deux femmes dans les studios, deux Pascal même. Pascal et Vieux, bonjour.
Bonjour Baptiste.
Oui, c'est ça. Et Pascal Varré, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors Pascal et Vieux, on commence à vous connaître à l'antenne, non pas qu'on en soit lassé, bien au contraire, mais ça fait déjà quelques fois que vous venez parler ici au micro, et notamment autour de Les Collectives. Alors Les Collectives, c'est un groupe de femmes pour les femmes. Est-ce que vous pourriez déjà, pour commencer, peut-être nous remettre dans le bain ?
Alors Les Collectives, c'est un collectif qui n'a pas choisi de se constituer en association et qui a réussi progressivement à s'adosser à l'activité de l'espace social et culturel du DIWA, parce qu'une partie de ce que nous faisons rentre dans les missions de l'espace social, c'est-à-dire de permettre à des personnes qui peuvent se retrouver isolées et démunies de trouver des réponses à leurs questions. Et les personnes auxquelles nous nous adressons sont plutôt les femmes, puisqu'on est un collectif de femmes à l'écoute des femmes. Et notre rôle est d'être présente sur le territoire, de connaître le territoire, d'avoir des relais, des relations, etc. Et de travailler en lien avec les professionnels qui interviennent, entre autres le centre, le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui assure des permanences tous les 15 jours à l'espace social, un vendredi sur deux, aussi avec les assistantes sociales, avec le centre de planification. Donc on travaille en réseau avec ces personnes-là et ça permet qu'au lieu d'attendre les ouvertures de professionnels qui interviennent, ça permet d'accompagner les personnes dans leur démarche et d'éviter l'isolement.
Isolement, j'ai entendu démunis, quels sont les cas ?
Alors, il y a toutes sortes de cas. En fait, le fait d'être démuni, ce n'est pas la pauvreté, la précarité comme on pense souvent, c'est être démuni pour faire respecter ses droits en tant que femme. Il y a des droits des femmes, on parle beaucoup d'égalité, il y a des lois qui évoluent et des difficultés à les voir appliquer, voire même à les connaître et à savoir comment se diriger pour trouver des solutions.
Bien sûr, on pense le plus facilement à tous les cas malheureux de violence conjugale, mais est-ce que ça peut aller aussi sur le domaine du droit du travail ? Le meilleur, comment dit-on ?
L'inégal, le quart en moins par exemple.
Voilà, c'est ça. Vous allez comme ça sur tous ces domaines ?
Alors, du côté des collectifs, on va sur les domaines de solitude, d'être désemparé devant une difficulté et de toujours rester en lien à plusieurs, éviter de passer à côté de drames et malgré tout, on passe à côté. Et puis, Pascal pourra mieux répondre sur les questions qui se posent au niveau juridique. Mais pour nous, il n'y a pas que les violences conjugales. Ça, c'est clair.
J'ai aussi entendu le désir de ne pas se monter comme une association pour... impacté au niveau de l'espace social qui lui-même ne proposait pas en fait ce service au départ. Pourquoi ne pas être complètement indépendante ?
Alors, en fait, le collectif, ça fait maintenant 5 bonnes années qu'il existait. Au début, beaucoup plus tenu par des professionnels, justement, dont Pascal du CIF, dont la conseillère conjugale et familiale, dont une assistante sociale, dont une personne de la mission locale, quelqu'un de la CAF. Et on avait des gens de l'espace social, quand même, qui étaient à l'origine de ce projet, à titre personnel. En fait, il nous a été proposé de nous constituer en association. Ça ne correspondait pas à notre envie. Et on a préféré au contraire s'intégrer dans l'espace social pour être visible et s'intégrer dans le conseil d'administration de l'espace social pour être bien représenté. Et depuis cette année, depuis cette assemblée générale, nous sommes 4 collectives au conseil d'administration de l'espace social.
Et donc, vous impactez un petit peu plus, y compris sur les missions même de l'espace social, alors ?
Oui, je pense que ça, du coup, ça se faisait déjà en partie avec l'accueil de l'espace social. Mais du coup, ça devient beaucoup plus visible, les problèmes de femmes. Par exemple, cette année, autour du 25 novembre, pour la lutte contre les violences faites aux femmes, on a mis en place une exposition qui a duré toute la semaine autour du 25 novembre. On a pu reprojeter un film et animer un débat autour de ce film qui s'appelle « Violence conjugale ». Festival en guise d'amour, qu'on avait passé l'an dernier au Pestel, et là qu'on a placé plutôt en réunion de travail. On a pu faire un collage sur, en fait, un agrafage, un épinglage sur un grand tissu, sur deux grands tissus, d'images qui représentaient ce qu'on vivait comme étant des violences faites aux femmes qui paraissent ordinaires, qui paraissent acceptables et qui sont vécues comme inacceptables. Aux deux manifestations sont venues Madame la sous-préfète. Mercredi, on avait la chargée de mission aux droits des femmes aussi, qui est venue animer la journée avec nous. Voilà, ça nous rendait visibles. Alors, des fois, on a pu obtenir d'aller au Pestel, ou on a pu être dans la salle polyvalente. On essaie toujours de trouver un lieu un peu public pour faire ce qu'on fait. Et mercredi, par exemple, on était dans la salle communautaire.
Ce problème de visibilité, là, ça fait plusieurs fois qu'on l'entend, se traduisait comment avant ? C'est-à-dire que votre action n'était même pas connue, on va dire ?
Alors, elle était peu connue, et c'est pour ça que le fait d'être présente au moment des journées internationales des femmes, le 8 mars, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes à minima, c'était une façon de faire savoir qu'on était là. Obtenir un bureau, une salle pour se réunir et pour recevoir les gens à l'espace social nous a permis d'être visibles et d'assurer des permanences pendant un an et demi. Et maintenant, on travaille plus sur rendez-vous. On a un bureau à disposition pour recevoir les gens en confidentialité. Et on a une salle de réunion chaque fois qu'on a besoin. Alors qu'avant, on se réunissait un petit peu comme on pouvait, une fois au CMS, une fois ailleurs. Voilà, c'était compliqué.
Quel lien, avant de passer à le sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, effectivement, la question juridique par rapport à ce droit des femmes avec vous, Pascal Varré. Un dernier mot, quel lien entretient les collectives avec les autres mouvements féministes qu'on a pu voir là, ces derniers temps ?
Ah voilà, ces personnes, ces deux collectifs, alors les personnes qui ont voulu faire venir les féroces pendant la quinzaine de l'égalité recherchaient quelqu'un, déjà un cofinancement, il fallait qu'on puisse trouver un financement complémentaire à ce qu'avait apporté le conseil régional dans la quinzaine de l'égalité. Et aussi, elle nous avait repéré comme étant le collectif qui coordonnait les actions sur le territoire, sachant qu'elles n'avaient pas obligatoirement envie s'impliquer dans la durée, mais sur des événements, oui. Donc on a travaillé ensemble à la préparation d'événements et on a consacré plus de la moitié de notre budget à faire venir les féroces. Le genre de festival, en fait, on n'est pas intervenu financièrement là, mais on a utilisé tout notre réseau de contacts pour informer les gens. Et ça a été une réussite, ce genre de festival, puisqu'il y a eu à peu près une trentaine de personnes à chaque atelier proposé par le collectif.
Et à ce moment-là, est-ce que vous venez glisser votre travail ?
Bien sûr. On est présente, on participe, on présente notre plaquette puisqu'on a enfin réalisé une plaquette d'information. Donc ça a été l'occasion de diffuser la plaquette des collectives pour que les gens sachent comment nous contacter et à quoi on sert.
Alors Pascal Varré, vous êtes juriste. J'ai entendu aussi que le collectif rassemblait tout un tas de personnes différentes. Peut-être juste pour terminer, encore une fois, Pascal Évieux, comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce collectif ? Comment est-ce qu'on a envie de faire ça ?
Alors, moi, je suis arrivée tout simplement un 25 novembre. J'ai une voisine qui m'a demandé de covoiturer pour un... Il y avait la projection du film sur la marche mondiale des femmes pour la lutte contre les violences. Et donc, je suis descendue avec elle. Et puis, je participais déjà à des cercles de parole de femmes qui étaient faits par une collective. Et donc là, ça a été l'occasion pour moi de découvrir ce collectif et de me renseigner et puis progressivement de m'y intégrer.
Faut-il avoir été touché par un dysfonctionnement par rapport aux femmes, justement, pour entrer dans ce genre de collectif ou au contraire
Alors, je constate que pour beaucoup de collectives, au fur et à mesure, on prend conscience qu'à un moment ou à un autre, on a été victime de quelque chose. Mais ce n'est pas obligatoirement au début conscient. De mon côté, par exemple, les collectifs, nous sommes formés maintenant, une partie, il y en a d'autres qui attendent leur formation, une sensibilisation sur les violences conjugales aussi, sur les aspects juridiques et psychologiques. Et au fur et à mesure qu'on fait cette formation, tac, on a compris les unes et les autres en quoi on avait été concernés à un moment donné de notre vie, parfois en tant qu'enfant, d'un foyer où il y avait des violences. Et aussi, ça a délié notre parole entre nous. On n'est pas seulement des militantes entre nous maintenant. Il y a une sorte de solidarité, de sororité, qui est le mot féminin pour fraternité.
Oui. Pascal Varré, je me tourne vers vous. Premièrement, est-ce que vous pourriez nous présenter votre travail ? Qui êtes-vous ?
Je suis une salariée du CIDF. Le CIDF, c'est le Centre d'information droit des femmes et des familles. En fait, le réseau des CIDF a été créé en 1972 à l'initiative de l'État, lorsque la première chargée des droits des femmes a été nommée au sein d'un gouvernement pour rattraper les fortes inégalités entre hommes et femmes. Et c'était vraiment dans l'idée de soutenir le droit des femmes. En 72, il y avait des tas de choses à faire. Il y en a toujours à faire, mais la loi a évolué, c'est vrai. Même si en pratique, il faut toujours rester vigilant. Donc le CIDF a vu le jour donc, en 1972. Et le CIDF de la Drôme aura 40 ans l'année prochaine, en 2015. Donc ça fait également 40 ans que le CIDF œuvre en Drôme. On a trois axes de travail. Certaines de mes collègues s'occupent de tout ce qui est formation professionnelle et insertion des femmes, notamment après des périodes d'absence du monde du travail pour élever les enfants. Et puis, sur la dimension professionnelle et d'égalité au niveau salarial. Un autre axe très important pour l'accès aux droits. Encore une fois, dans l'idée d'une égalité entre hommes et femmes, nous pensons que chacun doit pouvoir accéder à ses droits. Mais pas seulement hommes ou femmes, également les gens qui sont de la ville et les gens qui sont de la campagne, également les gens qui ont les moyens de s'informer chez des professionnels qu'on doit rémunérer, mais ceux qui l'ont moins, et également les gens qui peuvent se déplacer parce qu'ils ont une capacité d'énergie et de santé forte, et ceux qui ne le peuvent pas. Donc la politique du CIDF, le plus possible, c'est d'aller vers les populations, jusqu'en maison d'arrêt d'ailleurs, partout où on peut apporter des informations ou des orientations pour que les gens accèdent à leurs droits. Voilà, donc moi je suis salariée en tant que juriste dans ce secteur du CIDF, l'accès aux droits, et également le bureau d'aide aux victimes spécialisé contre les violences faites aux femmes. Donc nous sommes habilités par le parquet, par le tribunal, pour accompagner les femmes victimes de violences, quelles que soient ces violences.
Habilité par le parquet, c'est-à-dire que vous allez participer à leur défense, à leur constitution de dossier.
Alors dans le détail, ça veut dire que notre association a un mandat d'accompagner les victimes de violences. Les accompagner, ça veut dire les recevoir, les écouter, parce qu'on n'accompagne pas quelqu'un qu'on n'écoute pas dans ses demandes, sinon on répond à sa propre demande et pas à celle de l'autre. Donc les écouter, et puis effectivement leur donner les informations sur les droits et les procédures, les orientations vers les professionnels du droit, les avocats, les notaires et les huissiers et tout autre professionnel, les aider pratiquement à écrire leur dossier quand elles ne sont pas en capacité de le faire, et puis les accompagner quelquefois à des audiences, être là en soutien. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire de juristes, mais aussi de psychologues, et on travaille également beaucoup en réseau, d'où les liens avec les collectives.
Quand ça croise psychologue et juriste, comment ça se passe ? Tiens, ça, c'est...
Eh bien, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que être juriste, ce n'est pas seulement appliquer des procédures ou dire le droit. Aujourd'hui, vous prenez un ordinateur, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez votre mot-clé et puis vous trouvez les informations sur les droits. Mais les gens, ce dont ils ont besoin, c'est qu'on écoute ce qu'ils vivent, c'est qu'on réfléchisse avec eux comment la loi s'applique dans leur vie, comment la procédure qui pourrait être mise en œuvre va se passer dans leur situation. Pour faire ce travail d'accompagnement juridique, on est forcément obligé d'être dans un premier temps dans une forme de retrait et d'écoute de l'autre. Mais l'écoute de l'autre, même si c'est une écoute active, qui se veut comme prendre ce que l'autre veut nous donner et l'aider à le traduire dans des positions de droit, c'est pas toujours suffisant. Quelquefois, les blessures sont trop fortes. Quelquefois, les cassures sont trop nettes. Et on ne peut pas, même avec de la bonne volonté, même avec de la bienveillance, il y a des moments où il faut faire un travail plus en profondeur. Donc nos collègues psychologues sont là pour accueillir et accompagner ces moments de vie où on a besoin vraiment de travailler plus en profondeur les déchirures de la vie.
Oui, puis on imagine quand même que la réponse juridique ne fait pas tout. C'est pas parce que la personne va être punie, même très justement par rapport à sa faute, que tout est réparé.
J'ai presque envie d'applaudir à votre question. C'est central. Oui, d'ailleurs. Mais c'est central ce que vous dites. Parce que quand on est victime, par exemple, d'une violence, certes, aller devant les tribunaux et obtenir que la personne mise en cause soit reconnue coupable, soit condamnée. Voilà. Alors ça, c'est la punition. C'est important. Il peut y avoir des demandes de réparation très souvent devant les tribunaux en forme de dommages et intérêts. Mais quand on perd un enfant, l'argent ne ramène pas l'enfant qu'on a perdu dans un accident. Quand on a été agressé sauvagement dans la rue, aucun argent ne ramènera la paix intérieure, la personne qu'on a été avant. Donc vous avez raison, la justice ne peut pas tout régler. Elle est réparative dans une certaine mesure, mais ça ne suffit pas.
D'ailleurs, est-ce la première demande que les personnes victimes font ?
On va dire que ça fonctionne un peu comme des poupées russes, c'est-à-dire qu'il y a des étapes. Il y a des gens qui ont simplement besoin d'exprimer hors de la sphère privée ce dont ils sont victimes. C'est le cas des violences intrafamiliales. Quand on commence à dire à un juge ce qui s'est vécu chez soi et dont on a été victime, c'est quelque part passer un palier. C'est quelque part avoir un point. Je ne dis pas qu'il soit forcément de non-retour, mais c'est un point, c'est une étape importante. Après, il y a des personnes qui ont besoin simplement d'entendre que celui qui est mis en cause est vraiment responsable de l'acte qu'il a posé. Parce que le souci, surtout dans les violences intrafamiliales, c'est que l'auteur, très souvent, arrive à renverser les rôles et à faire en sorte que la personne victime se sente coupable de n'avoir pas fait comme elle aurait dû faire, de n'être pas celle qu'il souhaiterait qu'elle soit, etc. etc.
De l'avoir mérité.
De l'avoir mérité. Donc c'est quelquefois primordial que nous, juristes, que tout adulte qui est en contact avec cette personne puisse rétablir les choses. C'est toi qui as subi ceci ou cela. C'est lui qui a posé tel et tel acte. Et que ces actes soient reconnus comme répréhensibles en étant des infractions à la loi le soit, caractérisés comme ça, c'est important.
Pour aller plus loin, encore une fois, dans cette réponse juridique, y a-t-il systématiquement une réponse légale à des situations qui ne le sont pas ? Par exemple, je connais un collectif très actif sur la région Rhône-Alpes qui régulièrement extrait des personnes atteintes de violences conjugales, les faire disparaître de là où elles vivent pendant 3 mois, 4 mois, le temps qu'il leur faut pour à la fois se reconstruire, fuir la personne qui les persécute, pour enfin éventuellement faire cette démarche à la fois psychologique et éventuellement juridique. Donc y a-t-il toujours une réponse légale à offrir à ces gens-là ?
Je pense qu'il y a toujours une réponse légale, sauf qu'il y a des priorités. C'est-à-dire que la première priorité, c'est la mise à l'abri. Quand quelqu'un est confronté à un danger, d'abord, c'est la mise à l'abri. Pour ne pas être hors la loi, on peut mettre à l'abri tout en prévenant et sans donner d'adresse. Il existe, en fait, la loi française est très riche. Parfois trop, dit-on, mais la loi est suffisamment aussi vague, c'est-à-dire permet aussi suffisamment d'être vague pour prendre le temps. Un exemple tout simple, une femme qui doit partir loin de chez elle avec ses enfants, en urgence, parce qu'il y a des faits de violence. La loi dit qu'une femme ne peut durablement soustraire ses enfants au lien avec l'autre parent. Ça signifie quand même que s'il y a une urgence, même si une femme a un enfant avec un homme qui est le père de l'enfant, hein, elle peut bien sûr partir avec son enfant. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est durablement empêcher ses enfants de voir leur papa. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se mettre à l'abri. Donc je crois qu'on a une loi qui permet, grosso modo, de rester dans la légalité. Après, une femme mariée ne doit pas quitter son domicile conjugal, et c'est valable à l'inverse. Un homme marié ne peut pas quitter son domicile conjugal puisque le mariage implique la communauté de vie. Mais s'il y a un danger pour l'un ou pour l'autre, bien sûr, ça va être d'abord une mise à l'abri, et puis ensuite, on verra quels moyens légaux on peut mettre en œuvre pour que les choses se rétablissent.
Et vous avez les moyens d'empêcher la recherche de l'abri ?
Quand une femme doit être mise à l'abri, quelquefois oui, on se retrouve face à à des compagnons, à des ex-conjoints, concubins ou pacsés qui éprouvent une déchirure forte et qui ne peuvent pas accepter cette rupture, hein, parce que peut-être qu'on le verra, la violence conjugale, c'est essentiellement une emprise et un besoin de contrôler l'autre pour ne pas se sentir en état de fragilité. Quand la rupture intervient et que la femme part loin, il se peut que l'agresseur se sente complètement désuni de son socle, de telle façon qu'il ne raisonne plus et la recherche de partout. Est-ce qu'on a le moyen vraiment d'empêcher tout ce qu'il va réussir à faire? Non. Par contre, nous sommes prudents. D'abord, nous sommes tenus à de la confidentialité, certains d'entre nous aussi au secret professionnel. Et nous sommes prudents, tout simplement. Donc, on n'a pas les moyens d'empêcher. La preuve, il y a des drames hein, qui surviennent de temps en temps. Malheureusement, on n'a pas les moyens de tout empêcher. Mais il me semble qu'on peut, par des règles de prudence, aider les femmes à rester à l'abri. Et peut-être aussi, viendra-t-on petit à petit dans ce registre aussi, aider les hommes à reposer les choses, à recadrer les choses, à recalmer certaines choses aussi.
Oui, puisque là, on se concentre sur les femmes, mais effectivement, peut-être que les premiers à aider, pour qu'ils arrêtent au moins, ce serait les hommes. Il faudrait s'attaquer très très tôt à nos modes éducatifs, tout ça. Enfin bon, ça c'est
mon petit discours. J'ai souscrit.
Moi aussi, tout à fait.
Je viens d'entendre, oui, on pourrait peut-être définir un petit peu qu'est-ce qu'on entend par violence conjugale ou qu'est-ce qu'on entend par droit bafoué, principalement au niveau des femmes. Pascal Varé.
Alors, je ne pourrais peut-être pas vous faire une liste longue et complète. C'est trop long, c'est trop complexe. Et malheureusement, certaines violences sont de plus en plus raffinées. Enfin, je veux dire, il y a des choses qu'on n'entend pas comme des violences.
Ah oui.
Mais l'emprise dans le cadre conjugal, que ce soit des gens mariés, des gens qui vivent en concubinage, des gens qui sont pacsés, des gens qui partagent leur vie tout simplement dans le cadre, et des ex aussi hein, dans, après les séparations, dans le cadre des violences conjugales, il s'agit d'emprise, il s'agit de domination. Tout peut arriver. Hein. On connaît les violences physiques, ça c'est ce qu'on connaît le plus souvent. On connaît un peu moins, mais de plus en plus, les violences psychologiques, hein, la façon dont on rabaisse toujours l'autre, dont on dévalorise par des petites phrases, par la façon de se comporter, par des remarques qui sont à deux tonalités, c'est-à-dire une tonalité positive, mais en même temps une tonalité négative, de sorte que la personne ne sait plus si elle reçoit un compliment ou un blâme. Enfin, il y a des tas de violences psychologiques.
Le discrédit,
le fait de faire passer l'autre pour fou ou folle, hein, en disant « mais enfin, jamais je t'ai dit ça alors qu'il avait ou elle avait exigé ceci ou cela ». Enfin, vraiment, il existe des tas de façons d'entraîner chez l'autre une complète perte d'estime de soi et une telle déstabilisation que la personne n'éclate pas comme sous les coups, mais peut imploser d'incompréhension, de fragilité imposée par l'autre. Ça, ce sont des violences qui sont tout de même assez courantes. Parce qu'un conflit n'est pas une violence. Hein. Des conflits, des désaccords, il y en a partout dans les couples. Mais lorsqu'il y a toujours une position de domination de l'un sur l'autre, là, on rentre dans le cadre des violences. Des violences qui sont importantes, dont on parle peu, ce sont les violences sexuelles. Et dans les couples, je rappelle que depuis des années maintenant, le viol entre époux est condamné par la loi. Ça, c'est également quelque chose dont on parle peu.
Hein, oui, là, quand on parle de violence sexuelle, on ne parle pas de sympathique déviance où on pourrait aimer se mettre des fessées ou pourquoi pas se fouetter, ce que quelques personnes font.
Oui, encore une fois, quand on parle de violence, il n'y a pas d'accord. Voilà. Il y a quelqu'un qui impose à l'autre des pratiques, des façons de faire. Voilà, ça c'est plus dans l'ordre de l'amour, du jeu sexuel ou du jeu amoureux. C'est de l'ordre, j'impose ce que je veux pour moi, quel que soit ce que tu éprouves ou quel que soit ce que tu en penses. Et malheureusement, ce sont encore des choses qui sont relativement courantes parce que parler sexe, c'est déjà pas très courant. Et dans les couples, finalement, ce ne sont pas non plus des sujets qui sont si fréquents que ça. C'est pas toujours très discuté. Alors, on peut pas faire de généralité parce que, bien sûr, et heureusement, il y a des lieux, des couples, des familles où ça se discute, mais pas partout et pas toujours. Voilà. D'autres violences qui me tiennent à cœur, ce sont les violences économiques ou les violences par contrainte, lorsque notamment des femmes issues de l'immigration sont en attente de papiers, de titres de séjour, du chantage, si tu ne fais pas comme je dis, tu n'auras pas ton titre de séjour renouvelé, enfin ce genre de choses. Tout le revenu, alors que ce n'est pas légal, hein, là, une femme a le droit d'ouvrir un compte depuis, je crois, 1967 ou quelque chose comme ça,
dans les années 60,
sans l'autorisation de son mari. Enfin, il y a quand même des pratiques dans les couples où... souvent l'homme impose que les revenus entrent sur un seul compte et gère lui-même et donne gentiment 4,50 francs à sa femme pour aller chercher du pain. Mmh. Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de loi en France par rapport au mariage, par exemple? Alors donc le nom de l'homme devient prioritaire, on va le trouver jusque sur la boîte aux lettres, c'est aussi parfois exigé par la banque dans le cadre d'emprunts, etc., qu'il n'y ait plus qu'une personne qui porte un compte, qu'ils soient tous rassemblés, et à un moment donné où l'ensemble du système favorise ça.
Non, abus de pouvoir, si c'est ce que vous dites, je ne suis pas d'accord.
Non,
dans la loi, on peut porter, une femme peut porter son nom de jeune fille, qu'elle soit mariée ou non. Ouais. C'est un choix de porter son nom d'épouse. On n'est pas obligé de porter son nom d'épouse. On peut porter son nom de jeune fille. L'administration est obligée d'accepter qu'une femme use de son nom de jeune fille. Il n'y a pas de souci. On n'est pas non plus obligé d'avoir des comptes joints. Chacun peut avoir son compte. Ou en tout cas, chacun peut disposer de ses revenus. Et ça, c'est inscrit dans la loi. Mais ce que vous faites remarquer à juste titre, c'est que dans les foyers, ça ne se passe pas toujours comme ça.
Mais même dans l'idée, dans le... Mais bien sûr, c'est un truc qui est ancré. Parce que là, merci Pascal Varré, vous nous faites la lecture du droit, ce pourquoi d'ailleurs vous êtes dans
Centre d'information sur les droits des femmes et des familles.
Et des familles, donc oui. C'est-à-dire que pour nous faire connaître les droits et les droits que nous avons, mais ça je trouve que c'est plus encore une idéologie de société qui traîne et qui... pousse encore un petit peu à ça. Vous avez parlé à mes grands-parents, c'est pas autrement.
Si je suis en train de vous dire que la loi va plus vite que la société, c'est étonnant parce que d'habitude, c'est la société qui impose à la loi de se mettre un petit peu à jour. Mais c'est vrai que dans certains domaines, la loi prévoit des choses que les gens ne vivent pas parce qu'il y a le poids de l'éducation, des habitudes, voire des habitudes familiales ou culturelles ou religieuses ou locales. Ça, c'est vrai que de temps en temps, les gens viennent en disant « mais moi, j'ai jamais osé faire comme ça », bien que ce soit possible de par la loi. C'est bien pour ça que je vous dis qu'il ne suffit pas d'énoncer la loi. Ce qui est important pour les gens que nous accompagnons, c'est de voir dans leur vie comment on peut mettre en œuvre les principes d'égalité.
Le respect
d'égalité,
de la loi.
Le respect de la loi, voilà.
Parce qu'elle est vieux, plusieurs fois, la tête d'Audelinet pendant l'énumération des quelques... cas de violence.
De violence, oui.
Pourquoi ?
Eh ben parce que, par exemple, quand j'ai été amenée à accompagner des personnes en gendarmerie dans les zones rurales, et je me souviens une fois, je suis allée dans une gendarmerie et j'ai regardé ce qu'il y avait à l'affichage, j'ai vu qu'il n'y avait rien concernant les violences conjugales, et je leur ai dit, mais je ne vois rien affiché. Alors ils m'ont dit, mais chez nous, il ne se passe rien. Alors je leur ai dit, je sors de chez madame une telle. Est-ce que vous savez que les violences ne sont pas uniquement physiques, qu'elles peuvent être psychologiques ou économiques? Et là, je sortais de chez une personne qui subissait des violences économiques, c'est-à-dire qui n'avait pas été déclarée tout le temps où elle travaillait, qui n'avait pas eu accès à l'argent du foyer et qui était en train d'essayer désespérément de se constituer une retraite minimum en obtenant des trimestres. Enfin, voilà, c'était une femme victime de violences, au vu et au su de tout le monde. Et la gendarmerie me disait, il ne se passe rien ici.
À quel moment ces professionnels-là, les personnes, les premiers auxquels on pense, évidemment, c'est peut-être sans doute la police, la gendarmerie, on est victime, hop, on appelle. Mais si ces personnes-là n'ont pas les réponses, est-ce que les collectifs, c'est peut-être à votre échelle trop court, mais ou les centres d'information au niveau national œuvrent dans ce sens?
Il faut savoir que chaque année, plus de 216 000 femmes sont victimes de violences. Et moins de 16% portent plainte. Alors je n'excuse pas le propos de certains forces de l'ordre qui diraient que ça n'existe pas chez eux, mais une faible proportion des personnes qui sont victimes de violences le font connaître aux services de police et de gendarmerie. Donc ce sont à des groupes comme les collectives qui témoignent et qui sont là dans un accompagnement quotidien. Ce sont à des associations comme le CIDF de relayer cette difficulté. Parce que être victime de violence et porter plainte, c'est pas un enchaînement forcément naturel et sûr. J'ai encore rencontré aujourd'hui, ici, et j'ai rencontré toute cette semaine en Nordrome et sur tous les lieux de mes permanences, des femmes qui finalement me disaient « Oui, c'est vrai, vous avez raison, je suis bien victime de violence, parce que quelquefois elles le sont, mais elles ne le reconnaissent pas d'emblée. Hein. Oui, c'est vrai, vous me dites que je suis victime de violence, c'est vrai, ce sont bien des violences, mais porter plainte, quand même, c'est mon compagnon de vie depuis 20 ans, c'est... voilà. Donc c'est pas...
Le syndrome de Stockholm. On n'a pas envie de lui faire du mal, quoi.
On n'a pas envie de lui faire du mal, et puis c'est aller dans l'inconnu, et c'est se projeter dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Quelqu'un me disait récemment, c'est une femme que j'aime beaucoup, qui me touche énormément, me disait, il y a quelques années, j'ai été victime de violences conjugales. Et finalement, je suis partie, parce que c'était plus possible. Et puis aujourd'hui, je vis seule, et j'ai été victime d'autres spoliations, d'autres difficultés, tellement forte que quelquefois je regrette le temps où j'étais dans ma famille, avec mon mari, mon fils, mon bel appartement, mon métier, et où je me faisais cogner dessus régulièrement. Mais là, je savais où j'étais, je savais ce que je vivais. Et la solitude que je vis aujourd'hui, les difficultés que j'éprouve aujourd'hui, elles, je ne les connais pas, je ne sais pas comment les gérer et je ne sais pas comment faire. Vous voyez, c'est très complexe de savoir que choisir, que décider. Ça, ce sont des choses complexes. Et dire « la loi, madame, punit » les violences physiques, psychologiques, sexuelles. Petite parenthèse, c'est qu'il faut aussi en ramener la preuve pour qu'il y ait des punitions au niveau pénal. Hein, oui. Voilà. Mais ça ne suffit pas parce que quelquefois, ben, on préfère gérer ce qu'on connaît que de plonger dans l'inconnu.
Comment est-ce que ces personnes-là sont repérées si elles ne savent parfois même pas qu'elles sont victimes de violences conjugales?
Elles sont repérées grâce aux actions que beaucoup font et dont les collectives, en diffusant des films, en partageant des débats, en racontant, en partageant des vies de femmes, parce que c'est comme ça qu'on peut repérer. Il y a quelques années, dans une ville de Nordrome, on avait distribué, lors du 25 novembre, des petits flyers qui portaient plusieurs points. Si vous ne pouvez jamais sortir sans votre mari, si vous ne pouvez jamais dépenser un euro sans que lui demander la permission, si vous ne rencontrez jamais vos amis toute seule, si de temps en temps vous n'êtes pas d'accord, il vous impose de vous taire. Voilà, il y en avait sur toutes les sortes de violences. Si vous avez coché 5 cases sur les 15, c'est que peut-être vous êtes victime de violences conjugales. Et il y a des gens qui sont venus me voir en disant « j'en ai coché un, j'en ai coché deux ». Je me dis « ah ben oui, c'est pas tout rose dans notre couple, mais enfin bon, ça va ». Et puis dans la nuit, je me suis réveillée, je me suis dit « si je suis honnête avec moi-même, je dois en cocher un troisième ». Et puis le lendemain, j'en ai fini par les cocher. Je les ai presque tous cochés. Donc il y a besoin d'encaisser le fait de savoir qu'on est victime de violence. Il y a des gens qui disent « mais il ne me bat pas, il m'a poussé contre le mur, il m'a maintenu en mettant sa main sur ma gorge et en disant « maintenant tu te tais ». Mais heureusement, pour l'instant, il n'est pas violent. Voilà. Oui, ça nous fait sourire, mais c'est là la réalité des violences quand elles sont quotidiennes. Mmh. Ça fait tellement partie du quotidien de certaines femmes aujourd'hui que... réaliser qu'il s'agit là des violences et des violences graves et de menaces graves, c'est pas si facile que ça. C'est pourquoi nous sommes tous des citoyens. Je vous ai dit que j'étais juriste au CIDF et je suis contente de l'être, mais je suis aussi une femme et je suis aussi une citoyenne. Et c'est pour ça que je fais partie des collectifs aussi, pour le CIDF qui adhère à ce travail, mais aussi en mon nom propre. Parce que quand on est citoyen, c'est parce qu'on parle entre nous, parce qu'il y a du lien entre nous, qu'on peut arriver petit à petit à se positionner, à savoir comment on vogue dans sa vie.
Mmh. Avec un matériel, j'allais dire pédagogique, important, avec un travail d'éducation populaire que forcément il faut faire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite bataille contre les médias, le cinéma, la télévision, j'en passe et des meilleurs qui cultivent la violence hommes, femmes d'ailleurs, dans tous les sens, même les enfants, les ados. Tout.
Alors ça c'est vraiment une position du CIDF très très forte. Je vous ai dit que le CIDF était né en 72 d'une idée de rattraper des inégalités et de veiller aux droits des femmes. Et aujourd'hui on s'appelle Centre d'information sur les droits des femmes et des familles et notre militance c'est pour l'égalité. Et pour ça, C'est une question d'éducation, vous l'avez dit également. Nous travaillons dans les collèges, sur ces notions d'égalité, sur l'élargissement des choix professionnels pour que les filles ne soient pas forcément maîtresses et les garçons ne soient pas forcément médecins. Il faut travailler sur toutes ces notions pour que l'égalité soit quelque chose qui soit plus facile tout de suite. Et le ministère des Droits des Femmes, et notamment notre chargée des Droits des Femmes en Drôme, est très attentive à la question de l'égalité dans les publications, dans les médias.
La lutte contre les stéréotypes.
Je crois que là, de ce point de vue-là, en Drôme, on a en tout cas une volonté de travailler sur ces questions.
Par exemple, en Drôme, l'égalité de salaire est appliquée.
Tu veux répondre? C'est très difficile de répondre. Alors moi, je suis allée au colloque sur l'égalité professionnelle, justement, cette année, au nom des collectives. Et il s'avère que ça se voit plutôt dans la Drôme ou ailleurs, sur les emplois précaires, en fait. Il s'agit moins du quart en moins qui existait historiquement, puisque c'était un salaire d'appoint, le salaire de la femme, et que le salaire important, c'était le salaire familial, celui de l'homme. Mais il s'agit plutôt du fait que c'est des emplois partiels, pas obligatoires, choisi, que c'est des difficultés à accéder à des postes à responsabilité. C'est beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes.
Même de monter en grade, comme
oui,
on dit.
Oui. On se rend compte que les postes de décision sont beaucoup plus tenus par des hommes que par des femmes. Ben, on voit bien, par exemple, à l'ADES, je ne sais même pas s'il y a des hommes qui travaillent à domicile. Et c'est des emplois à temps partiel, éclatés, où il faut accomplir des kilomètres pour aller travailler, donc où il est pratiquement impossible de vivre avec son salaire. En Rhône-Alpes, par exemple, on a beaucoup de travailleurs et de travailleuses précaires, des gens qui ont un emploi et qui ont des difficultés à assurer le quotidien avec.
Alors, cette question sur l'égalité des salaires, mais en fait, sur l'ensemble, je suis très pessimiste, personnellement, sur ma perception de notre système gouvernemental français, de notre société judéo-chrétienne et tout un tas d'autres éléments qui rentrent en cause, à croire que le CIDF a fait quelque chose, sans doute, depuis 72, mais enfin... Vous avez encore de l'espoir?
Ah oui, on a de l'espoir. On
mais
a de
ça
l'espoir
se voit,
parce
ça
que on va lutter contre les stéréotypes à toute occasion et on se saisit des moindres avancées légales. Bon, je suis désolée, je suis une juriste, donc je vais revenir à la loi pour instaurer quelque chose d'efficient. Par exemple, mes collègues du secteur professionnel ont certaines missions. Alors, je pourrais pas vous en parler en détail, mais accompagnent certaines entreprises à faire des diagnostics sur les évolutions de carrière, sur la question de l'égalité au milieu professionnel. Et il y a des conventions qui se signent chaque année dans des entreprises pour veiller à la réduction des inégalités sur un plan salarial, mais aussi pour veiller que ce ne soit pas toujours aux hommes qu'on propose une formation technique et aux femmes qu'on demande de faire le brevet de secouriste. Hein ? Voilà, par exemple, des choses très concrètes. Oui, nous sommes optimistes, non pas que nous croyons que les choses vont changer demain, mais nous lâcherons jamais notre militance et nous mettrons toujours tout en œuvre pour rappeler aux citoyens notre responsabilité à chacun.
Alors, je voudrais maintenant prendre Air Diwa comme exemple. Et peut-être que vous allez pouvoir nous aider. Air Diwa a été montée par deux hommes. Elle est aujourd'hui principalement utilisée par des hommes. Ce sont eux qui produisent des émissions. Sur 48 producteurs, il doit y en avoir une trentaine. Alors que notre conseil d'administration, lui, est plutôt mixte et qu'on essaye à chaque fois qu'on peut d'embaucher plutôt une femme pour essayer de créer une parité dans l'équipe salariale. Pourtant, force est de constater que les femmes viennent moins sur l'outil. Alors, est-ce que nous, hommes, avons créé une atmosphère qui les exclut? Et si oui, pourquoi? Comment on a fait? Comment est-ce qu'on peut faire machine arrière? Ou est-ce qu'il y a encore, dans l'idée, dans la tête des gens, et c'est pour ça que j'en reviens à ce fameux système et à toute notre culture qui nous impose, des métiers, des zones artistiques, des endroits où la femme considère qu'elle ne peut pas aller comme elle peut considérer qu'elle mérite de se faire taper par son mari?
Moi, je réponds pour les collectives ou tu réponds pour...
Vas-y, commence.
Alors, déjà, les collectives, pour 2015, il est prévu que nous assurions une émission régulière. Donc, nous allons nous former. A priori, au moins 3 collectives vont se former pour assurer cette émission. Ça sera des femmes.
Merci.
Voilà une belle réponse. Mais c'est sûr...
Elles seront encore minoritaires. Hein.
On ne peut pas ignorer... que des barrières sont posées à l'élargissement de certains choix professionnels, qu'elles soient posées par le poids de l'habitude, par les hommes qui tiennent les rênes de certaines branches professionnelles, ou par les femmes elles-mêmes qui s'autocensurent, comme vous le disiez, d'où l'intérêt de travailler très tôt à l'école, cette idée qu'on peut tout faire, et que oui, un petit garçon... peut être intéressé par les métiers de service et que, oui, une fille peut être intéressée par la technique ou la mécanique auto. Voilà, donc ça, ce sont des choses à travailler.
Enfin, autre exemple très local, les TAP, la fameuse aménagement du nouveau temps scolaire. Plusieurs activités sont proposées. Il y a là des activités sportives, des arts martiaux et puis des activités manuelles, de la poterie, de l'art plastique, du jardinage. Et lorsque les instituteurs proposent aux élèves de s'inscrire aux différents TAP, les garçons qui ont une grande gueule l'ouvrent très vite, se positionnent très rapidement sur les activités sportives. À la fin, il n'y a plus de place. Et donc, aux petites filles de choisir, évidemment, que les activités manuelles qu'il reste.
Parce qu'on les laisse faire.
Bah, évidemment, on n'a pas imposé, il n'a pas été imposé aux petits garçons de prendre au moins une activité manuelle sur les 3 auxquelles ils pouvaient s'inscrire.
À réfléchir pour les années futures.
Ouais. Mm-hmm. Bon, voilà, moi j'ai lancé toutes mes petites bombes. Merci.
On entend ça. Je voulais simplement rappeler quelques numéros tout de même.
Ça va être le moment.
Voilà, d'abord vous dire que vous pouvez donc joindre les collectives et je laisserai Pascal clore en disant comment joindre les collectives. Vous pouvez joindre le CIDF, le Centre d'information droit des femmes et des familles, qui a son siège social à Valence, rue de Bibrard, donc à Valence-le-Haut, au 04 75 82 06 10. Les permanences psychologiques, donc par une de mes collègues psychologues, et les permanences juridiques par moi-même à 10, sont assurées tous les mois, les 2e et 4e vendredis du mois, de 9h30 à 12h30.
À l'espace social et culturel.
À l'espace social et culturel du Diois. Et puis, pour terminer...
Il y a un site internet pour peut-être voir, parce qu'on n'est pas écouté que dans le Diois. Ça, on a toutes les permanences quelque part.
Oui, vous trouverez toutes ces permanences sur le site internet du CIDF, il n'y a pas de problème. Et puis, je rappelle que nous sommes tous des citoyens, que si quelqu'un est en difficulté autour de nous, un voisin, une femme, on peut faire un pas, aller voir, proposer son aide. Et qu'il existe le 3919, qui est donc le numéro d'information Violence Femmes Info, qui est gratuit et qu'on peut appeler pour savoir où aller au plus proche de chez soi pour avoir des informations concernant la lutte contre les violences.
La veille sociale, c'est peut-être ce qui marche le mieux.
Et vraiment, le 3919, je prends la parole spontanément, pour avoir donné, moi, plusieurs fois l'occasion à des femmes d'appeler le 3919 en leur mettant un téléphone dans les mains pour le faire, j'ai vu que c'était très efficace, qu'elles avaient des réponses à leurs questions et que c'était parfois plus facile de parler au 3919 pour avoir des indications que de parler à quelqu'un qu'on connaît. Et j'ai vraiment choisi cette solution à plusieurs reprises avec beaucoup d'efficacité. Ça a donné ensuite des rendez-vous pris pour aller plus loin.
Oui, peut-être même que d'être dans le cercle de femmes, ça peut avoir quelque chose d'un peu intimidant, on n'a pas forcément envie de se dévoiler.
Tout à fait. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'espace social, je demande régulièrement, dès que je sais qu'il y a une situation difficile, la possibilité d'avoir un bureau pour vraiment me contenter d'écouter et d'établir un lien avec quelqu'un sans qu'il soit intimidé. Puisque par exemple, dans nos permanences, à une époque, on était plusieurs et c'était difficile de s'exprimer. Et il y a des femmes qui venaient uniquement pour maintenir un lien social avec quelqu'un d'autre, quoi. Et même pour constater, comme tu dis, que tu fais dans tes permanences, aider quelqu'un à prendre conscience qu'elle est victime de violence, que simplement la rassurer en lui disant « Bah oui, alors compte tenu, là je reprends, vous m'avez dit ça, mais oui, vous êtes victime de violence. C'est normal que vous ayez réagi en partant comme ça, c'est qu'il y avait une violence. » Donc voilà, de pouvoir faire ça.
Et puis, accéder à ses droits, c'est aussi faire de la prévention contre la violence. Je pense notamment à toutes les personnes que je reçois dans le cadre de séparation. Quand il y a des conflits entre les parents séparés sur le droit de garde, le droit de visite, les paiements de pension alimentaire et j'en passe. Le fait de pouvoir parler à quelqu'un, de voir comment régler ses problèmes et éventuellement trouver des solutions, soit en médiation familiale, soit avec l'aide d'un juge qui finalement tranchera le litige, ça permet quelquefois aussi de faire baisser la tension et de ne pas en arriver à des situations dramatiques. Donc aider et accompagner les femmes victimes de violences, c'est absolument nécessaire et incontournable, mais être simplement présent pour répondre à toutes les questions d'accès aux droits, ça reste fondamental, justement pour prévenir les situations à plus gros risques.
Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu as utilisé, Pascal, le terme des violences intrafamiliales. Et c'est aussi comme ça que je vois les choses. D'ailleurs, je suis aussi bénévole dans une association pour la protection des enfants qui s'appelle Enfance Prévention. Parce que pour moi, c'est absolument lié. La violence qui se passe au sein de la structure familiale et les violences qui vont ensuite être entérinées, je dirais, dans la vie courante. Donc pour moi, ça c'est indispensable d'être présente. Et il me semble qu'il y a même quelqu'un qui fait de la médiation familiale. Il y a une médiateur familiale, Adi aussi.
Médiatrice.
Oui. Médiatrice. C'est une fille qui le fait encore.
Elle a déjà été invitée à cette antenne.
C'est pas son prénom, Claire.
Claire Bonnel, voilà, c'est ça. Toutes ces informations, évidemment, vous n'hésitez pas à vous rendre à l'espace social où il se passe tout un tas de choses et on pourra vous rappeler les permanences du CIDF le deuxième et le quatrième vendredi de chaque mois de 9h à midi à l'espace social. Donc, et pour terminer, parce qu'elle est vieux, peut-être les collectives. Alors
les collectives, j'ai pas le numéro en tête puisque c'est l'accueil de l'espace social qui répond au téléphone. Moi, je donne mon numéro de téléphone personnel sur le canton de La Motte-Chalancon pour les personnes qui sont plus près de chez moi. Et à ce moment-là, je les rencontre et je les accompagne. Et pour l'instant, donc, c'est vraiment Isabelle à l'accueil de l'espace social qui repère les personnes qui ont besoin de nous, qui répond et qui répercute, c'est-à-dire elle a toujours le téléphone d'une collective pour nous contacter. Par ailleurs, on peut à tout moment nous laisser un mail à collective au pluriel di@gmail.com et le mail est consulté régulièrement par plusieurs des collectives.
Pascal Varré, merci pour cette plongée dans le juridique et dans le droit.
Petite plongée, hein, parce que
oui.
On a
survolé.
Et que si vous me laissiez parler, j'en aurais sûrement pour la journée.
Ouais.
Surtout avec Pascal.
Eh bien alors, on fera ça, je ne vais pas dire quotidiennement, mais au minimum une fois par an. Hein, ça, l'éducation étant la répétition.
De toute façon, comme il y en a beaucoup plus à dire, on va être obligé d'inviter Pascal Varré à certaines de nos émissions.
Voilà. Et puis, Pascal est vieux, merci encore.
Merci
pour cette énergie, pour ce dynamisme. Merci de penser à RDIWA toujours.
Merci à RDIWA parce que vraiment, j'apprécie vos interviews. Et aussi votre site qui est toujours très bien renseigné et qu'on peut consulter à tout moment. Et vos émissions qu'on peut consulter à tout moment, c'est vraiment un plus, quoi.
Eh bien, invitons les auditeurs à se rendre sur ce site internet www.rdiwa.fr pour retrouver cette interview avec toutes les coordonnées et les numéros de téléphone. Merci à toutes les deux et à bientôt sur cette
Merci
antenne.
À vous.
À bientôt.
Au revoir.
Interview. Okay, the bird.